il, nous, vous, il et elle. Tais-toi. Toi avec moi. Nous, vous, avec toi. Ouais, donc, ouais, je suis plus nombreux. Des jeux, des nous. Une émission ludique proposée par l'association Archijeux.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en direct de Radio Saint-Féréol. Vous êtes, et bonne année à tous et à toutes. Je suis au téléphone pour cette première émission du mois de janvier 2022 avec Xavier d'Accessijeux. Bonjour Xavier. Ah, Xavier.
On oui.
Ah, bonjour Xavier. Oui. Bonne année à toi.
Eh ben merci.
Alors bonjour Xavier. Du coup, on est avec toi pour cette nouvelle année 2022. Qu'est-ce que tu fais du coup Xavier au sein d'Accessijeux et qu'est-ce que c'est qu'Accessijeux? Est-ce que tu peux te présenter un peu?
Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation et bonne année à tout le monde. Alors, Accessijeux, c'est une association que j'ai fondée il y a maintenant 7 ans. On va fêter nos 7 ans cette année. Et donc, moi, j'en suis le président. Je l'ai fondée avec deux amis. On est tous les trois quadras, même plutôt bientôt qu'un cas. Donc, on jouait assez souvent ensemble aux jeux de société, moi de même. Je leur faisais même tester des protos de jeux que j'essayais de créer de mon côté. Et on a toujours été confrontés à un souci qui était l'accessibilité des jeux pour ma petite personne, parce que moi, je suis très, très malvoyant, je ne suis pas non-voyant, mais disons que je vois sur des cartes des très gros caractères, mais dès qu'il y a des petits chiffres, du texte, etc., je ne vois pas sur les cartes. Et ça a toujours été embêtant parce qu'il a toujours fallu adapter les jeux un peu en les saccageant, quoi, avec des marqueurs, avec des loops scotch, des méthodes pas très propre, qui donnait plus trop envie de jouer au jeu après, parce que bon, il était accessible mais pas très attrayant pour tout le monde. Et donc de ce constat, de cette passion commune qu'on avait pour les jeux de société modernes qu'on découvrait à ce moment-là, est née l'idée de cette association, parce qu'on s'est dit que j'étais certainement pas le seul malvoyant à avoir besoin d'avoir des jeux de société accessibles. Et donc tout l'objet de l'association Accessijeux, c'est de trouver des solutions pour rendre un maximum de jeux de société moderne accessibles aux déficients visuels dans un premier temps, et on en parlait certainement, maintenant on s'ouvre aussi à d'autres types de handicaps.
D'accord. Et du coup, tu as monté cette association quand exactement?
Alors en 2015, ça fait donc 7 ans cette année. Au départ, on a un petit peu... juste sonder un peu sur les réseaux sociaux, savoir s'il y avait des gens que ça intéressait, parce que bon, on monte pas comme ça une asso et on s'engage pas à plein temps. Il y a des gens qui peuvent s'engager dans une association, des fans de macramé qui va réunir que 3 personnes dans leur région s'ils veulent, mais moi j'avais envie que c'est de l'impact et j'avais envie vraiment d'y consacrer du temps, et donc je voulais être sûr qu'il y avait un vrai sujet, et on a très vite constaté qu'il y avait un vrai sujet, parce que à la fois dans le monde du jeu, les éditeurs, ils n'avaient pas d'interlocuteur pour les conseiller sur ces aspects-là d'accessibilité. Et puis au niveau du monde des personnes déficientes visuelles, il n'y a pas tant de loisirs que ça qui sont accessibles. Donc ça a très vite, on s'est engouffré dans une niche en fait où on est quasiment les seuls au monde, et ça a très très vite pris et très très vite grandi.
Ok. Du coup, vous avez démarré à combien? Tu m'as dit, vous étiez 3-4, c'est ça?
Alors, au début, on était 3 copains. D'ailleurs, les deux avec qui j'ai fondé l'asso sont plus aujourd'hui membres. C'est toujours des potes et ils viennent toujours de temps en temps passer faire des coucous. Mais au départ, ils étaient vraiment les membres fondateurs et dans le bureau avec moi. Aujourd'hui, pour des raisons de déménagement ou des raisons professionnelles, de temps à dégager, ils ne sont plus trop actifs dans l'asso, mais très vite, on a eu des bénévoles qui sont venus parce que En se baladant dans les festivals, dans le monde du jeu, et en racontant ce que faisait chercher à faire notre association, eh ben, on a trouvé des gens qui étaient des passionnés de jeux. Avoir une asso qui proposait du jeu pas trop loin de chez eux, ça les intéressait. Mais en plus, avec cet enjeu social derrière de pouvoir partager le jeu avec un maximum de personnes, eh ben, on a réussi à attirer des personnes qui seraient peut-être allées dans d'autres associations ludiques s'il n'y avait pas cet enjeu social qui est derrière notre asso, parce que les enjeux de l'asso, on les a découverts au fur et à mesure. En fait, au début, on voulait juste adapter des jeux purement, c'était purement matériel, une façon de jouer. Et puis, on s'est rendu compte, à force de développer les différentes actions de l'asso, que il y avait un vrai enjeu social derrière, d'accès aux loisirs pour des personnes en situation de handicap, de sortir de l'isolement, etc. Et voilà, donc on a très vite eu pas mal de bénévoles qui nous ont rejoints et également des jeunes en service civique. On a 3 jeunes en service civique en permanence à l'association.
Ok, super. Et du coup, là, aujourd'hui, l'association, il y a combien de personnes, combien de bénévoles, est-ce qu'il y a des salariés?
Ouais, alors déjà au niveau salarié, on est 2. Okay. Moi et Benoît, on est un peu... cul et chemise, hein, on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va partout ensemble dans les festivals, sur toutes les différents projets de l'asso, c'est vraiment nous qui chapeautons un peu tout. Ensuite, on a entre 10 et 15 bénévoles permanents, on va dire, parce que les bénévoles, c'est parfois une ressource un peu éphémère, hein. Il y en a des fois qui ont du temps et puis il suffit que d'un coup ils aient un conjoint et ils en ont moins. donc on va dire que ça tourne entre 10 et 15 bénévoles permanents qui du coup soit nous accompagnent sur les événements, soit sur les adaptations de jeux ou les animations, voilà. Et puis sinon pour ce qui est des pratiquants, c'est assez compliqué à quantifier parce que en fait on quantifie pas vraiment en termes d'adhérents. Parce que les adhérents, il y en a qui viennent à la ludothèque. Bon, je pourrais vous dire qu'on a environ 200 adhérents à la ludothèque qu'on gère dans le 12e, mais déjà, on n'a pas que des adhérents déficients visuels. Et par ailleurs, on a des adhérents, des bénéficiaires un peu partout en France qui nous achètent des jeux et eux, ils ne sont pas forcément recensés en tant qu'adhérents de l'association, mais pourtant, ils sont bien des bénéficiaires de notre association, quoi.
D'accord. Et oui, du coup, il y a du monde un peu partout. Du coup, qu'est-ce que fait Accessi-Jeux maintenant ?
Alors, que fait Accessi-Jeux ? Beaucoup de choses. C'est vrai qu'au départ, le projet était sur l'accessibilité des jeux. Il y avait plein de pistes possibles à prendre. Et finalement, avec le temps, on les a un peu toutes prises. Il ne nous reste peut-être plus qu'à organiser un festival pour être complet. Mais sinon, donc, la première des choses, c'est qu'on est une ludothèque à Paris, dans le 12e arrondissement. Alors, on n'est pas une très très grande ludothèque, hein, on a 50 mètres carrés, mais du coup, on n'est que spécialisé jeux de société. On n'a pas pour le moment tout ce qui est petite enfance, Lego, Cap-Lap, les mobiles, etc. Donc, on a vraiment que du jeu et pas mal de jeux et pas mal de nouveautés. On a 1100 jeux à peu près et on en a environ 350 qui sont adaptés aux déficients visuels. Ce qui fait qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout en Ile-de-France pour nous emprunter des jeux, parce qu'on est vraiment une ludothèque très, très spécifique, on trouve pas ces jeux ailleurs. À la ludothèque, on organise très régulièrement des événements, des soirées jeux, où se mêlent du coup à la fois personnes déficientes visuelles et bien-voyantes. C'est vraiment l'objectif de l'association, d'avoir une mixité de personnes et non pas juste d'être un club de jeux pour non-voyants qui jouent entre non-voyants, quoi. Il y a suffisamment de structures et de loisirs adaptés où les gens sont entre eux que nous, vraiment, c'est un objectif. D'ailleurs, à l'image de l'équipe de ceux qui ont fondé l'association, moi j'étais le seul bigleux du groupe et on a prouvé qu'on était capable de jouer tous ensemble, quoi. Donc pourquoi faire jouer que des non-voyants entre non-voyants, quoi. Donc ça, c'est la partie ludothèque, où on peut à la fois jouer sur place, emprunter des jeux. Après, et quasiment en même temps, même peut-être même avant d'ailleurs, je crois, est venue la boutique. Alors la boutique, c'est on vend des jeux adaptés, mais donc uniquement des jeux adaptés. On vend pas des jeux qui n'ont pas d'adaptation. Et là, du coup, nos clients, c'est à la fois des particuliers.
D'accord.
Alors, on peut avoir des personnes déficientes visuelles, forcément, qui se prennent d'amour pour le jeu et qui se font une collection. Mais on a aussi du ponctuel, le parrain, la marraine, le grand-parent qui veut faire un cadeau à un proche déficient visuel. Et puis, on a aussi beaucoup de structures. On a environ 150 structures à travers la France qui nous ont acheté des jeux qui sont des bars à jeux, des ludothèques, des associations de déficients visuels, des écoles, voilà, plein de structures différentes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on arrive à quantifier aussi notre l'essaimage de notre projet, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas d'antenne accessi-jeu à proprement parler dans d'autres villes que Paris, mais sur une carte, on peut mettre des petites punaises et se dire ah ben là, il y a des jeux accessi-jeu dans tel ou tel bar à jeux. Donc, c'est assez assez kiffant de voir au fur et à mesure la petite carte de France qui se remplit. Donc voilà, là on était sur la partie boutique. Et l'autre, la dernière grande branche, la dernière en date, enfin il y en a encore une après de branches d'ailleurs. Alors j'ai parlé d'abord des animations, de la sensibilisation. On fait beaucoup d'animations avec le jeu à l'aveugle, dans les entreprises, dans les écoles, etc. Ça c'est un petit peu le gagne-pain de l'association, parce que sur la boutique, on gagne pas beaucoup d'argent parce qu'on essaye de mettre les jeux le moins cher possible, parce que les adaptations, d'accord, elles coûtent un peu, quoi, et même pas mal. Donc on prend vraiment très très peu de marge pour essayer tant que possible que les jeux adaptés soient le plus près possible du jeu pas adapté, pour essayer d'un peu de lutter contre cette discrimination au prix liée au handicap, quoi. Et donc sur cet aspect-là boutique, on gagne pas beaucoup d'argent, et par contre du coup l'argent de l'asso, on le gagne plutôt sur les animations, où là on facture des animations dans des entreprises de sensibilisation pour les journées consacrées au handicap, etc. Et puis dans ces cas-là, bah, on a diverses animations, divers ateliers proposés. On fait découvrir le handicap visuel par l'intermédiaire du jeu, que ce soit jeu sur table ou un peu façon défi, escape game dans le noir ou des choses comme ça, quoi.
Et ça vous est arrivé du coup de vous déplacer loin ?
Ah oui, bah oui, on se déplace partout. On a partout en France, et on a fait aussi des choses en Belgique, en Suisse.
Ah ouais.
Et puis après, nos jeux, ils vont même ailleurs, quoi. On a des jeux qui sont partis en Birmanie, en Afrique. Voilà, quoi. Il y a des choses très sympas qui se passent. L'association, elle n'en finit plus de gagner des petites punaises sur la carte. Du coup, pas que de la France, mais du monde, quoi. Ouais, on commence à avoir un impact international. Ça, c'est chouette, quoi. Parce que de toute façon, des déficients visuels, il y en a dans le monde entier. Et on est quasiment les seuls à proposer cette... Enfin, on est les seuls à proposer autant de variétés dans ce qu'on propose, en fait. On connaît une entreprise aux États-Unis qui propose des kits pour adapter soi-même son jeu.
D'accord.
Mais toute l'offre accessi-jeu, c'est-à-dire à la fois une ludothèque adaptée où on peut emprunter des jeux, autant de jeux disponibles à la vente, on a quasiment une centaine de références de jeux adaptés qu'on vend. Voilà, tout ça, ça n'existe nulle part ailleurs, en fait. Donc, bah, très logiquement, en fait, ça gagne du terrain. C'est juste que on fait les choses dans l'ordre, petit à petit, et avec les ressources humaines dont on dispose. Donc, on peut pas envahir le monde comme ça d'un seul coup. Mais
bah, c'est déjà pas mal.
Mais ça avance bien, ouais, ça avance bien.
La conquête du monde par accessi-jeux est bien partie.
Oui, bah, c'est mes potes me charrient toujours en disant que quand on me pose des questions sur l'avenir d'accessi-jeux, je parle de la conquête du monde. Mais oui, c'est un peu ça. Mais bah, en fait, c'est la conquête du monde, mais parce qu'il y en a vraiment un enjeu social derrière, quoi, qui est de se dire bah, partout dans le monde, on a besoin d'avoir des loisirs accessibles, quoi. Donc, continuons. Tant qu'on est les seuls à s'occuper de ça, on continue, quoi.
Ok, et tu me parlais d'une troisième branche, du coup, la vente.
Alors, du coup, la quatrième, ça, c'est l'édition.
Okay.
Alors, en fait, l'édition, c'est parti d'un constat très simple, c'est que bah, quand on s'occupe de jeux de société et de déficience visuelle, dès qu'on a commencé à avoir des articles un peu à droite à gauche ou des interviews, eh ben, on a eu beaucoup de seniors qui nous ont appelés. Parce que bah, les seniors font partie du public déficient visuel qui aime jouer. Alors pour le coup, pas à des jeux trop complexes, hein, parce que les seniors restent toujours dans les canons de ce qu'ils aiment. Et du coup, ils nous appelaient et on n'avait pas de réponse pour le type de jeu qu'ils nous proposaient, qu'ils nous demandaient. Parce que en plus, les seniors ont des difficultés visuelles qui sont pas forcément les mêmes qu'un jeune adulte. Ils ont des troubles associés de mémoire, ils ont parfois du mal à toucher, à reconnaître les choses au niveau tactile, etc. Donc là, dans ces cas-là, il a fallu envisager de rééditer du matériel avec des plus grosses cartes, du contraste, des choses comme ça. Et donc là, on a commencé à demander des subventions à différents mécènes, différentes fondations, et on a obtenu des subventions qui nous ont permis en 2018 de sortir un premier jeu qui était un jeu de lettres en très très gros caractères qui s'appelait Toutilix Access.
Ok.
Qui était la version adaptée de Toutilix, qui était un jeu qui existait déjà. Mais du coup, on a créé cette gamme Access en se disant, bah, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on voit un jeu qui nous semblerait bien pour une gamme un peu bon, familiale, mais aussi axée un peu senior, on peut le faire en réédition. Et du coup, dans cette gamme Access, rajouter le petit logo Access sous le nom d'origine pour que les acheteurs confondent pas la version d'origine du jeu à la version Access. Donc c'est pas des jeux, on crée pas des jeux, on n'en est pas là, on fait pas de jeux originaux, mais on réédite des jeux qui ont déjà eu un beau succès d'estime dans une version Access. Donc là on a sorti cet été MOW de Bruno Catala, qui est un jeu un peu, certains le comparent un peu aussi ce qu'il prend parce qu'il y a des vaches et des mouches, mais vous voyez l'idée à la fin de la partie c'est d'avoir le moins de mouches possible devant soi. Et donc là, on a carrément tout refait, les graphismes, le choix de la boîte, la taille. On est passé d'un jeu de cartes à un jeu de tuiles, on a mis du braille, du relief, des cartes très contrastées, très colorées. Alors, certains peuvent aimer ou ne pas aimer les graphismes parce qu'ils sont très flashy, quoi. Par rapport au jeu d'origine, ça change beaucoup. Mais en fait, voilà, ça a un réel intérêt, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau du choix des couleurs, on les a même comparés entre nous, entre malvoyants à la ludothèque. Est-ce que tu vois bien telle couleur à côté de telle couleur, etc. Voilà, donc tout a été fait, même d'ailleurs jusqu'à mettre un QR code au dos de la boîte avec la règle en audio et langue des signes. C'est-à-dire si on la flash, la règle
Ok.
sur smartphone, ça ouvre une vidéo. Et ben, justement, comme je disais tout à l'heure, qu'on essayait aussi potentiellement de s'ouvrir à d'autres types de handicap. On pallie aussi un petit peu à la difficulté d'accès à la règle du jeu pour les personnes sourdes avec cette règle en langue des signes. On a fait exactement la même chose sur le Quarto qui vient de sortir. Là, il est sorti 3 jours avant Noël. Et le Quarto, c'est un jeu qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis qu'il existe, donc depuis 30 ans. Et c'était pour nous un peu the must du jeu accessible depuis qu'on a fondé l'association. On le faisait beaucoup beaucoup jouer et il marchait même très bien aussi avec les seniors parce que un beau jeu en bois comme ça, ils sont rassurés, ils sont dans leur canon justement. Mais du coup, plutôt que de l'adapter, comme c'est le jeu qu'on vendait le plus, on a proposé à Gigamic de coéditer la réédition et ça a été la meilleure manière de faire plutôt que de leur commander systématiquement des quartos et de les adapter, quoi.
Ouais.
On a totalement réédité le jeu avec des aimants. On a enlevé le critère de la couleur des pièces qui a été remplacé par est-ce que la pièce a une rayure ou n'en a pas?
OK.
Et on a mis au dos le QR code pour avoir accès à la règle en audio et langue des signes. Voilà. Puis on a d'autres projets en cours là d'édition du coup pour 2022 et 2023.
Super, on peut en parler ou pas du tout?
Oui, il n'y a rien de secret. Surtout qu'on les a déjà en partie montrés dans les festivals. Alors, ça va dépendre un petit peu aussi des coûts des containers, parce que c'est deux jeux qui vont être fabriqués en Asie. Donc, on attend aussi un petit peu à ce que les containers baissent un petit peu, parce qu'en ce moment, ça coûte très cher de faire venir des jeux d'Asie. Mais on est quasiment prêt à lancer la production. On a déjà bien travaillé sur le contenu de TTMC Access, donc tu te mets
Ok.
combien? Là, c'est pareil, seniors et familles nous demandaient un jeu de questions. Donc, bon, plutôt que d'aller vers le trivial qui date un peu, autant aller vers le jeu du moment qui buzz en termes de quiz, c'est tu te mets combien? Donc ça, c'est un jeu super fun où le principe est de s'auto-évaluer sur ses connaissances dans un domaine. Typiquement, tu te mets combien en kebab? Et là, si tu réponds 1, on va te demander de citer une sauce pour le kebab. Si tu réponds 10, on va te demander en quelle année
D'où vient
le
la
kebab
viande?
a été importé en Afghanistan. J'en sais rien, je dis conneries, mais voilà. Et donc, c'est un jeu très fun. Et là, pour le coup, celui-là, en fait, bah, la problématique de l'accessibilité du texte dans les jeux a toujours été présente pour nous. Et ben là, on se sert du smartphone. La boîte de jeu reste la même pour tout le monde. Il y aura toujours les questions un peu sur papier pour ceux qui veulent jouer et ceux qui peuvent lire les questions. Le plateau devient tactile. Le plateau dans TTMC, il est imprimé sur le couvercle de la boîte. Et ben là, c'est pareil, sauf qu'il est tactile, c'est-à-dire qu'il va être en double épaisseur et on va reconnaître la forme des cases. Elles ont chaque catégorie en fait a une forme différente. Un coup c'est un éclair, un soleil, une étoile, des choses comme ça. Et donc ces formes là, quand on tombe dessus, quand on avance sur le plateau et qu'on tombe sur cette forme, sur cette catégorie, on va aller choper dans la boîte une petite carte en carton qui a la même forme et sur laquelle il y a des puces NFC qu'on peut biper avec son téléphone. Donc là, même pas besoin de viser avec un QR code, ça passe vraiment comme à la caisse quand on achète un article. On fait bip sur la carte et là, le téléphone nous lit la question. Ça déclenche une question qui est piochée aléatoirement dans cette catégorie. Donc ça, il est quasiment prêt. L'appli est quasiment achevée. Tout ce qui est graphisme est prêt. Et on attend juste le meilleur moment pour lancer la production et le lancer. Ce sera certainement entre septembre et février de l'année prochaine, voilà. Et enfin de l'année qui vient, septembre de cette année, l'année prochaine. Et puis l'autre projet qui est en cours également, qui arrivera peut-être avant, en fait, on ne sait pas. On n'a pas vraiment de calendrier de sortie prévu. Tout ça dépend beaucoup de la fabrication et de l'import. C'est Lucky Numbers,
okay.
qui est aussi un jeu qui plaît à tout le monde, à toute la famille, mais qui peut aussi avoir son public chez les seniors, puisque c'est un croisement entre le sudoku et le jeu traditionnel du loto, on va dire. Chacun a sa petite grille devant soi, on pioche des petites trèfles sur lesquelles il y a des numéros qui sont écrits, et on est obligé de poser ce qu'on a pioché dans notre grille, avec la contrainte, comme du sudoku, de voir, enfin, c'est pas la même contrainte que le sudoku, mais c'est une contrainte, de devoir mettre le numéro dans une colonne ou dans une ligne de façon croissante. Donc on peut pas mettre son numéro n'importe où, et quand on peut pas, ben on est obligé de remplacer le chiffre qu'on a pioché par un chiffre qu'on avait déjà dans notre plateau. On rejette un chiffre au centre de la table et le suivant a le choix soit de piocher ce qui est au centre de la table, soit dans la pioche, pas se cacher. Et le premier qui a fini sa grille a gagné. Et là, dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est en fait Tiki Edition, ils voulaient faire déjà une version un peu deluxe du Lucky Numbers, donc on leur a dit, tant qu'à faire du deluxe, on fait un deluxe access.
Trop bien.
Donc le plateau va être sensiblement agrandi. Il y aura un joueur supplémentaire.
Trop bien.
Et surtout, le plateau, du coup, va être aussi encastrable, c'est-à-dire qu'il y aura deux épaisseurs. On pourra encastrer les trèfles dans le plateau, ça ne bougera pas, donc qui fait qu'une personne déficiente visuelle pourra aller lire le braille et le relief qui sera marqué sur les trèfles. Voilà.
Super. Super taf. Le temps passe, et on doit aussi. Vous avez un super programme, Accessi-Jeux, en tout cas, et des super activités.
Ouais.
Mais du coup, Archi-Jeux, on en a un peu aussi. Et du coup, c'est l'heure du programme.
Allez.
Demain, hier, avant-hier, aujourd'hui, bientôt. Le programme.
Alors, le programme de ce mois de janvier, on commence le 6 par une galette des rois. Le 12 par une formation communication avec l'association Dakodak. On enchaîne avec le 13 janvier par une petite formation à l'ouverture des 18h. Puisque le 13 janvier au soir, nous avons une soirée Dice Forge et Mystic Veil. Le jeudi 20 janvier, nous avons une soirée Cringe dès 20h. Et le 27 janvier, une soirée Nouvelle Contrée, nouvelle forme d'édition. Alors, voilà pour le programme assez succinct, j'essaye de faire court. Xavier, on demande en général à la personne du mois de nous choisir un jeu. Et apparemment, tu nous as choisi un jeu du mois.
oui,
attends, il y a un jingle.
Ah,
okay.
Un jeu pour le mois.
Et du coup, ce mois-ci, Xavier, tu nous as choisi Kaamelott.
Kaamelott.
Kaamelott, pardon, c'est moi.
Kaamelott avec un K et avec deux O. Ouais, c'est un jeu qu'on a adapté récemment, qui est édité par Blue Orange. C'est un jeu de cartes, un jeu de collection qui fonctionne avec... on peut dire semi-coopératif, mais en fait, la coopération est vraiment très éphémère dans ce jeu. C'est plutôt un jeu d'alliance, ouais, un jeu d'alliance éphémère. Où on... c'est que des cartes. On a juste deux, chaque joueur a un petit jeton au début de la partie, avec deux faces. Une face représentant l'auberge du chat noir et l'autre face représentant l'auberge du hibou. Et donc au début de la partie, tout le monde lance son jeton sur la table pour savoir dans quelle auberge il se trouve. Et en fait, les auberges créent deux équipes différentes, qui peuvent très bien d'ailleurs, tout le monde peut se retrouver dans la même auberge au début, ou ça peut être un contre tous, ou deux contre trois. Ou, enfin, de toute façon, tout ça est très très éphémère. Donc on a des cartes en main qui sont numérotées de 2 à 7. Et l'objectif, quand on se trouve dans une auberge, c'est de faire des collections avec les cartes qui sont. Alors ça, c'est dans un univers un peu médiéval, fantastique. On a des objets magiques dans les mains, des capes d'invisibilité, des baguettes magiques, des choses comme ça. Et on va les collectionner devant nous. Alors mettons que toi et moi, on est dans la même auberge, on est les deux seuls dans la même auberge. Si je mets un 2 et que tu mets un 2, on a fini la collection des deux, parce que pour les deux, il en faut deux. Et dans ces cas-là, comme on est les deux seuls dans l'auberge, on se partage les cartes, qui sont des points de victoire. Je prends une carte, t'en prends une, on a un point de victoire chacun. Et donc, ça, c'est juste la partie collection. On va faire des collections. Donc, évidemment, les sept, il faut qu'on en ait mis sept pour compléter la collection, avec les différentes personnes qui sont dans notre auberge au moment où on s'y trouve. Mais on peut aussi jouer les cartes pour leurs effets. Donc, si jamais, au lieu de mettre la carte devant moi, je la mets au centre de la table... Je peux très bien choisir de jouer une carte qui va, par exemple, faire que tu vas retourner ton jeton pour que tu changes d'auberge, ou que moi je change d'auberge, ou que je me mette à récupérer des cartes d'une certaine valeur dans la pioche, ou que je commence deux collections différentes. Donc tout l'objectif du jeu, en fait, c'est de se retrouver dans la bonne auberge au moment où une collection se termine, et d'être si possible le moins de personnes possible dans l'auberge pour faire en sorte que cette collection se la partage entre peu de joueurs, voire tout seul. Si tu arrives à faire, imagine une collection de 7 et que tu es tout seul dans ton auberge, à ce moment-là, tu marques 7 points d'un coup alors que les autres n'en marchent pas du tout. Quoi. Donc c'est assez fun. Nous, en plus à l'association, on le fait jouer avec une variante qu'on est pour le coup probablement les seuls à avoir, c'est que comme le jeu il est adapté de façon tactile, on a déterminé qu'il y avait une des deux auberges qui se jouait les yeux fermés. Quand on y joue avec des joueurs bien voyants, quand on les balance dans l'auberge des non-voyants, du coup, ils sont obligés de reconnaître leur carte au toucher. Ils trouvent ça super chiant, super dur. Et du coup, en plus de devoir faire des choix stratégiques pour le jeu, des fois, ils sont tentés juste de changer d'auberge pour retrouver la vue. Donc, c'est notre petit côté sensibilisation qui marche super bien sur ce jeu, quoi. Voilà.
En début d'interview, tu disais que vous ouvriez à d'autres formes de handicap. Tu parlais des personnes âgées. Est-ce que vous ouvrez à d'autres formes de handicap que simplement les personnes âgées ?
Oui, alors du coup, la surdité par l'intermédiaire de la règle, ça c'est beaucoup en discutant avec Guillaume, l'animateur de chez Trick Track, qui a été notre parrain et avec qui on a déjà fait des tables rondes sur le handicap, parce que lui est de formation interprète en langue des signes, donc on a déjà fait des tables rondes sur le sujet, et en fait, on pourrait croire que les sourds, je veux dire, ils ont la vue, ils ont leurs mains... Ils ont leur intelligence, ils peuvent jouer à n'importe quel jeu. Oui et non, parce que déjà tous les jeux à communication de style où il faut faire deviner des mots, tout ça, ça va devenir très problématique pour eux. Ouais. Et puis l'accès à la règle est problématique aussi, quoi, parce que déjà il y a beaucoup d'illettrisme parmi les personnes sourdes, parce que leur langue maternelle, c'est pas le français, c'est
la langue des signes.
Donc déjà parmi ceux qui savent lire, c'est déjà pas leur langue naturelle. C'est comme toi, si tu passais ton temps à lire des règles du jeu en anglais, tu es quand même content d'en avoir une de temps en temps en français, eux, l'avoir en langue des signes, ça leur fait du bien aussi. Et puis voilà, comme il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire le français, l'accès à la langue des signes, à la règle en langue des signes était important. Donc ça, dans les éditions, on le fait pas dans les jeux qu'on adapte. Ce serait compliqué de tourner une vidéo à chaque jeu qu'on adapte, parce qu'on a adapté déjà 350 jeux. Mais sur les jeux qu'on édite, par contre, ça nous tient à cœur que la règle elle soit aussi, tant qu'à faire qu'on édite et qu'on essaye de faire que la boîte soit la plus accessible possible, on met la langue des signes. Et puis bah après sur d'autres types de handicap, c'est un peu au jour le jour qu'on apprend en ludothèque en fait, parce que la spécificité de la bienveillance de notre équipe vis-à-vis des personnes en situation de handicap fait qu'on attire des structures qui voilà, ils nous entendent dans des interviews, des choses comme ça, ils disent ah ben on devrait peut-être essayer d'organiser des séances de jeu. Et là du coup on a des personnes autistes, déficientes mentales, on n'a pas de formation ni de connaissance particulière là-dessus, on a juste notre bienveillance et puis voilà, on sait que tout le monde est différent et on apprend, et au contact des éducateurs qui ont l'habitude d'encadrer ces personnes-là justement, on comprend tel ou tel type de jeu fonctionne typiquement. Par exemple, les jeux, tout ce qui implique la gestion des sentiments, le bluff, etc., avec des autistes, ça va absolument pas marcher, quoi, parce que c'est des choses qu'ils ne supportent pas, quoi, tout ce qui est lié à révéler des sentiments, devoir mentir, voilà. Donc voilà, on apprend différentes choses sur différentes pathologies comme ça. Et puis aussi avec les jeunes en service civique qu'on prend à l'association, on peut aussi apprendre sur les différents handicaps. On a eu une personne sourde en service civique. Là, on vient d'avoir une jeune qui était trisomique en service civique. Donc, dès qu'on peut acquérir apprendre des compétences sur le sujet, on fonce.
Xavier, le temps file. Cette émission aurait dû durer 4 heures. Elle ne peut durer que 30 minutes.
C'est déjà pas mal. Merci de l'audience, en tout cas.
On doit couper là pour cette fois. Juste, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Accessi-Jeux ? En ligne ? Et ouais, alors, en direct à Paris ?
Physiquement à Paris, dans le 12e arrondissement, on est en face du musée des Arts Forains, dans le quartier Bercy Village. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on nous trouve très facilement, Insta, Twitter et Facebook.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier, pour cette chouette animation de nouvelle année.
Merci pour l'invitation, Boris.
Eh bien, au plaisir et du coup, au mois prochain.
Salut.
Salut.
Archijeux est ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi de 20h à minuit, également le samedi matin de 10h à 13h et la ludothèque le mercredi après.